Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 816 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés au restaurant Bar à Vin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui, comme d'habitude, prêche la modération et la consommation responsable avec les vins de Cassis qui sont à 100% bio d'ici 2021. On va en parler. Le Sauvignon blanc dans le monde, le marché des vins étrangers en France et le Vino Quiz pour gagner plein de cadeaux en jouant sur invinoradio.fm. À mes côtés, Hélène Pio et Frédéric Hermine. Bonjour mademoiselle.
Bonjour.
Et puis Amand, David Cobol et puis Fabien Humbert. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Alors pour commencer cette émission, Invino Sud Radio retrouve Hélène Pio, journaliste au magazine Régal, pour une rencontre avec The DG de Invivo Wine. Un garçon exceptionnel, m'a-t-on dit.
Absolument. Frédéric Noyer, bonjour.
Bonjour à vous tous.
Donc vous êtes effectivement directeur général d'Invivo Wine. Alors on va parler d'Invivo Wine, mais il faut peut-être d'abord parler d'Invivo, que tout le monde ne connaît pas. C'est pas Invino, hein, c'est pas nous.
Oui, c'est pas loin, voilà. Mais c'est pas nous.
Mais c'est ça, ouais. Mais c'est pas très loin quand même. Alors Invivo, c'est un énorme groupe. Bon, par quoi on commence? Ils font de l'agriculture, de la nutrition animale, de la distribution grand public, de l'incubateur d'innovation food tech. Bon, on...
Et du vin.
Et du vin, oui. Quand même. Hein. C'est pour ça que vous êtes là.
Le vin est arrivé en dernier, non?
Le vin est arrivé il y a 3 ans avec une première acquisition, celle de Cordier Mestreza. Puis ensuite, le groupe Barsma, qui est un metteur en marché en Europe du Nord. Et plus récemment, les filiales Grand Export de Vinadeis sur les États-Unis et sur l'Asie.
C'est ça. Donc, Invivo Wine est devenu le premier groupe coopératif agricole français. Donc c'est énorme. Et puis bah, sur Invivo, vous avez 206 coopératives. En fait, votre moteur, votre levier, ce sont les coopératives.
Bah, en fait, on essaye de trouver un modèle équilibré entre les forces du marché, qui sont absolument essentielles, et puis un modèle de développement durable, aussi bien sociétal qu'environnemental.
Donc ça représente 3500 vignerons.
25 000 hectares.
Oui, c'est effectivement, il faut y aller avec le sécateur hein, quand il faut faire les vendanges. Il faut se réveiller tôt le matin. Bordelais, Sud-Ouest, Languedoc, Roussillon, Vallée du Rhône, Beaujolais. Bah alors, la Loire, l'Alsace, la Champagne. Bah, ça vous intéresse voilà, pas le Nord?
Si, absolument, mais on a eu une première discussion avec un certain nombre de coopératives qui ont adhéré au projet. L'idée actuellement, c'est de stabiliser le dispositif actuel avant de possiblement réouvrir sur d'autres bassins que sont par exemple la Loire, ou l'Alsace ou la Provence.
Et vous Frédéric, un petit mot sur votre parcours avant de rejoindre donc Invivo Wine, vous avez déjà une solide expérience hein, en France internationale dans les vins spiritueux.
Absolument, donc je suis ce qu'on peut considérer un pure player vin et spiritueux. J'ai commencé ma carrière dans les années 90 dans une société qui s'appelait Olivier et qui était importateur distributeur de vins et spiritueux en Asie et en 1998 j'ai rejoint Moët & Cie où j'ai eu un parcours d'une vingtaine d'années oscillant entre des fonctions dans les marques, dans les maisons comme directeur de développement international et marketing et des fonctions de direction générale de filiales de distribution.
Beaucoup en Asie, je crois. Hein.
Et un parcours relativement teinté Asie, mais également États-Unis, puisque mes deux derniers postes, c'était directeur international de NC, qui est le navire amiral de Moët & Cie, et avec en particulier le retournement de la marque, et en particulier sur le marché américain. Et le dernier poste, CEO de Moët & Cie Diageo en Chine, suite à l'accession de Xi Jinping, de toute la politique anti-corruption, anti-consommation.
Ça, c'est embêtant, hein, toute cette politique anti-corruption. C'était mieux quand il y avait un peu de corruption, non?
Sans commentaire.
C'est pas ça, c'est...
Sans de la fraude, enfin, bon, des allez, trucs un peu sympas.
Nous ne sommes pas dans une logique de pot de vin, ici.
Oui, bien sûr, même si dans pot de vin. Frédéric, l'ambition donc, d'une Vivo, du groupe, en matière de vin, c'est quoi? C'est une vraie ambition, d'abord, avec des marques fortes créées et à construire, à développer?
Tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est un dispositif qui représente à peu près 250 millions de chiffres d'affaires. Donc c'est à la fois petit et gros. Petit si on se compare au Treasury, au Gallo, qui sont des monstres de plusieurs milliards. Et en même temps, après 3 ans, c'est déjà dans le top 10, possiblement dans le top 5 des opérateurs sur le marché français. Une ambition très importante, puisque l'idée, c'est d'atteindre 500 millions d'ici 2-3 ans et 1 milliard d'ici une dizaine d'années.
Bouteille ou chiffre d'affaires ?
Chiffre d'affaires, pardon.
Oui, non, mais c'est les deux.
C'est vrai que c'est important.
Bien sûr,
important.
C'est une très bonne question.
Oui, je crois que vous avez comme objectif de devenir un distributeur mondial.
Absolument.
Alors, les gens qui nous écoutent, du coup, ils peuvent trouver vos vins où ? Les marques qu'ils peuvent trouver, c'est où ? C'est combien ? C'est quand ?
Donc, aujourd'hui, on opère sur trois piliers. Premier pilier qu'on appelle service, donc c'est du sourcing, de l'œnotechnie, de la mise en bouteille. Bien sûr, au service de nos propres marques, mais également au service de clients tiers, que ce soit de la MDD ou de la MDP. Un deuxième pôle qu'on appelle marque, qui est la constitution de notre portefeuille de marques, certaines qui sont globales, d'autres qui sont locales. Et puis un troisième métier qui est celui de la distribution, puisque moi je considère que c'est absolument essentiel de maîtriser sa distribution. Ça vous rapproche du consommateur, ça vous permet de maîtriser votre exécution sur le point de vente, ça permet également de cumuler les marges de producteurs et de distributeurs, et donc une distribution qui peut être à la fois sélective, grande distribution, grand vin, qui est une distribution très spécifique, avec en particulier Mestreza sur la place de Bordeaux, et donc tout cet ensemble qui fait aujourd'hui 250 millions de chiffre d'affaires.
Ça veut dire qu'éventuellement, à l'avenir, vous pourriez envisager d'avoir vos propres boutiques ?
Alors, ce n'est pas forcément le domaine de... En tout cas, ce n'est pas forcément la priorité aujourd'hui. La priorité, c'est d'une part de constituer un ensemble qui soit cohérent avec des synergies et donc ce que j'appelle créer le socle et l'excellence opérationnelle. Deuxième urgence ou priorité, c'est le développement commercial. Et dans le cas, et la troisième priorité, c'est un certain nombre d'opérations d'acquisition externe sur lesquelles on travaille.
La marque Cordier, c'est une marque qui est très forte. Hein, vous nourrissez beaucoup d'ambition.
C'était une marque qui était très forte, hein, puisque ça a été dans les années 50, sans doute le premier négociant de Bordeaux et vraiment une marque emblématique. C'est aujourd'hui une marque qui, malheureusement, n'a pas forcément été gérée de façon optimum sur les 10 dernières années. Et donc, c'est une belle endormie qu'il faut réveiller.
Merci beaucoup, Hélène. Merci également, Frédéric. Une vidéo sur Radio. Retour à présent, Frédéric Hermide. Décidément, il y a Guy Frédéric aujourd'hui, là, journaliste à Terre de Vin, pour nous parler de la première appellation bio de France. On va dans le sud, non ?
Oui, on va dans le sud, à côté de Marseille. Merci d'avoir dit Cassis, Alain, parce que...
Pourquoi ?
Souvent... Mais la plupart des gens disent Cassis, c'est les petites baies rouges.
Ah ben non, ça c'est pour
et
un kir.
Si vous dites Cassis aux gens de Cassidin, ils s'énervent. Donc ce que je comprends, parce qu'on les mélange un peu. Donc Cassis, oui, qui va être la première AOC de France en bio. Alors... officiellement, donc en 2021, il y a, pour resituer Cassis, il y a une douzaine de domaines qui produisent à peu près 1 million de bouteilles, à peu près 200 hectares. Ils sont déjà aux trois quarts donc en bio, 9 domaines à peu près sur les 12. Et puis les autres sont en conversion, donc tout sera en bio en 2021. Alors, pour être honnête, il y a d'autres appellations qui sont déjà en
bio.
Une autre appellation qui est 100% bio, mais pas que certifiés, à savoir les Baux de Provence, qui sont à 85% bio, mais sur les 12 domaines, puisqu'il y a aussi 12 domaines, il y en a un qui joue les révoltés et qui ne veut pas être certifié, mais de fait, en tout cas, tous sont en bio. Patrimonio, c'est avec le jeune président Mathieu Marfis, il a décidé aussi d'être en bio, ils sont déjà aussi à 80% bio d'ici 3 ou 4 ans, a priori. Donc, il y a d'autres velléités, mais en tout cas, les premiers qui pourront sans doute communiquer sur la première AOC.
Sur un 100%, c'est plutôt Cassis.
Ce sera
Frédéric, avec votre casquette de directeur général de Vivo Wine, vous en pensez quoi ? Quel regard vous portez sur le bio ? C'est plus un phénomène de mode, c'est durable, il en faut, quoi, non ?
Absolument. Très clairement, le projet Vivo Wine met le respect de la planète et de l'environnement au cœur de ses préoccupations. On a une marque qui s'appelle Maris. qui est certifiée bio depuis plus de 20 ans.
Ouais, donc pour vous, c'est dans l'ADN du groupe aussi.
Pour nous, c'est dans l'ADN du groupe.
Frédéric, l'autre Frédéric.
Alors, les premiers qui ont initié un peu le mouvement, hein, c'était il y a une vingtaine d'années, c'était les Simonini. Alors, les Simonini, qui est maintenant le château Barbano et le clos Val-Bruyère, Sophie est l'arrière-petite-fille d'un dénommé Émile Bodin, qui a relancé beaucoup l'appellation au début du XXe siècle, avant qu'elle devienne, en 1936, l'une des premières AOC. Alors, pour la petite histoire, Pierre Humbert, qui était un agronome assez...
C'était Fabien ou c'était Pierre ?
Non, c'était Pierre. L'arrière-grand-père ou
l'arrière-cousin ?
La Franche-Comté. Alors, vous confirmez, vous, David Cobol, qui avait écrit un excellent bouquin sur Cassis ?
Excellent, je laisse d'autres juges. Et j'étais pas le seul auteur, d'ailleurs. On était trois auteurs.
Trois auteurs. Frédéric.
Donc, le dénommé Pierre Humbert avait des vignes et à Cassis et à Châteauneuf-du-Pape. Donc, il était un des amis du baron Leroy, l'un des initiateurs des AOC. Donc, a obtenu, avec Châteauneuf en 1936, l'AOC à Cassis. Donc, pour revenir aux Simonini, qui se sont installés là dans les années 90. Donc, Sophie est l'arrière-petite-fille d'Émile Bodin. Il lui restait 4 hectares. Qu'elle a décidé donc de reprendre en main. Ils ont racheté entre-temps le château Barbano, parce que 4 hectares, c'est un peu juste pour en vivre. Et ils se sont mis d'emblée dans le bio. Alors, pas dans le bio pur et dur, mais voilà, ils s'y sont mis petit à petit. Après, ils sont passés à la biodynamie sans blocage particulier, en y allant tout doucement, parce que ça leur semblait évident. Il faut dire que le cadre de Cassis, c'est quand même assez magique. Entre les vignes en restant sous le Cap Canaille et la couronne de Charlemagne, la vue de la mer, depuis 2012, ils sont dans le parc national des Calanques, qui a imposé quelques contraintes, certes, mais qui a aussi limité les projets immobiliers, grâce aussi à la maire Danielle Milon, qui a vraiment bloqué en disant « je ne veux pas devenir à Monaco et en plus sans le fric », donc qui a bloqué et favorisé le vignoble.
Mais avec des bons vins, contrairement à nos amis monégasques.
Donc c'est les premiers qui sont lancés, et puis après, ça a fait boule de neige. Alors, une appellation qui est à 75% en blanc, l'intérêt de Cassis, il est vraiment sur le blanc. Alors, il y a aussi un peu moins de 30% en rouge et puis un peu
de
rosé. Ah. Hein, il y a une toute petite pourcentage de rouge. L'intérêt, alors, il y a 20 ans, Jean-François Brando, le domaine de Fontcreuse, qui a été président pendant une dizaine d'années, a imposé, enfin fait voter en tout cas le vote au cahier des charges, d'imposer 30% de Marsanne pour avoir un fil rouge. Parce qu'avant, le blanc, il y avait un peu de tout. Il y avait de l'Uni Blanc, de la Clairette, du Pascal Blanc, qui est un cépage en voie de disparition, qui est seulement maintenant sur le domaine Saint-Louis, chez Laurent Gêne. Il y avait un peu, c'était un peu trop, il n'y avait pas de fil rouge pour les blancs, si je puis dire. Donc au moins, avec ce 30% de Marsanne, on retrouvait un fil conducteur. Alors, avec le réchauffement climatique, parfois sur certains terroirs, c'est un peu plus compliqué. Mais néanmoins, ça donne quand même un vrai style au Cassis.
Merci.
Sur des vins très accessibles. Et je vous invite effectivement à lire le livre de David, qui est en plus magnifiquement illustré. Oh. Et qui est vraiment très, très bon.
Merci
très,
beaucoup, très Frédéric. Bon, merci à tous. Dans un instant, le Vino Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur invinoradio.fm. Et puis après, on parlera du Sauvignon et de son grand succès mondial.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour au restaurant Bar à Vin Nicolas, nous sommes toujours à Paris au 31 Place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Piau et le Vino Quiz. Hélène.
Oui, Vino Quiz dont je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau, un abonnement de 6 mois au magazine Terre de Vin. La semaine dernière, la question était, les vins blancs du Centre-Loire sont-ils produits exclusivement à partir de... Pinot Noir, c'était la réponse A. Sauvignon Blanc, réponse B. Ou Plavach Mali, réponse C.
Le suspense, attention.
Ah, suspense, ouais. La bonne réponse était la B, Sauvignon Blanc.
Ça y est, ouf, on peut prendre l'apéro, mais avec modération. Quoi.
On respire. Alors, hein. Ouais. Voici la question de ce week-end. In Vivo Wine est-il une application de reconnaissance d'étiquette? Réponse A. Une émission de radio animée par Alain Marty et la délicieuse Hélène Piau, réponse B, ou une immense coopérative regroupant 3800 vignerons, réponse C. Pour répondre et gagner un abonnement de 6 mois au magazine Terre de Vin, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup Hélène. Invino Studio Radio retrouve David Cobold, le cofondateur de l'Académie du Vin de Paris, pour nous parler du Sauvignon Blanc. Mais ça veut dire que David, il existe un Sauvignon Rouge ?
Non, mais il existe un Sauvignon Gris.
Ah, ben voilà, ça se complique.
Qui est rose.
Oui, mais le Sauvignon Gris a une baie un peu rose. voilà, bon, c'est compliqué.
Il faut suivre.
Oui, parce qu'il y a des variations, des mutations au fil des années. Et en parlant de mutations, il ne faut pas oublier non plus que le Sauvignon Blanc est un des parents du Cabernet Sauvignon qui, lui, est rouge. Comment ça se fait ?
Ben, vous êtes
parce
pas
que, parce que l'autre anglais, parent est un autre rouge ou un noir, Cabernet Franc. Donc ces croisements spontanés qui ont eu lieu dans le vignoble il y a plus de 200 ans maintenant, arrivent tout le temps. Il y a plein d'autres exemples, comme la Syrah par exemple.
C'est un genre de partouze géante, le vignoble.
Excusez-moi, mais décris-moi. Il y a des enfants qui écoutent l'émission.
Le vignoble d'autrefois était un gigantesque bésodrome de cépage.
Oh, c'est merveilleux. Et pourquoi
alors,
autrefois seulement?
Je vous rappelle que Brigitte, c'est en semaine, c'est pas le week-end, et on embrasse Brigitte.
Mais l'avantage des cépages, de la plupart des cépages, c'est qu'ils sont hermaphrodites. Donc ça peut se... ils ont le meilleur des deux mondes possible. Donc tout peut se passer.
Ouais, le meilleur ou le pire. Allez, on continue. Je reviens au vin.
Donc pourquoi je parle de Sauvignon Blanc? C'est simplement parce que j'ai passé trois journées délicieuses dans la petite ville de Udine. Udine, c'est dans le Frioul, ou pour donner son nom complet, le Friuli Venezia Giulia. C'est le nord-est, le coin nord-est de l'Italie, en gros entre Venise et Trieste, et une partie qui longe la frontière avec la Slovénie. D'ailleurs, quand on est sur la partie en colline, qui est vraiment à la frontière, c'est un assez joli paysage. Le reste est tout plat, hein, entre Venise et Trieste. Et là, on ne sait plus si on est en Slovénie ou en Italie, puisque, sauf quand on voit un panneau. Et là, on comprend par le langage, parce qu'il y a eu des mouvements de population qui ne respectaient pas les frontières autrefois. Les frontières n'existaient pas.
Oui, c'est ça, que...
ça faisait partie de l'Empire austro-hongrois aussi, cette région. Donc, c'est une culture très mixte. Et du coup, on trouve des cépages très mixtes dans cette région, dans le Sauvignon. Donc, pourquoi j'y étais? Parce qu'il y avait un concours mondial de Sauvignon blanc qui a lieu tous les ans. Ça a démarré à Bordeaux par les Bordelais. Et de temps en temps, ça voyage ailleurs. Nous avons été en Autriche, nous avons été en Espagne. Et cette année, pour la deuxième fois, nous étions en Frioul. Alors, qui produit du Sauvignon? D'abord, on peut dire que c'est le huitième cépage à vin le plus planté au monde, si on exclut bien sûr les cépages à table, les raisins de table. Huitième, ça veut dire quoi? Ça veut dire à peu près 121 000 hectares, c'est un peu plus que l'ensemble du Bordelais, dans un peu plus de 30 pays différents. Les principaux, c'est avant tout la France, dont est probablement originaire le cépage, mais aussi quasiment tous les pays du Nouveau Monde, États-Unis, Chili, Afrique du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande, et surtout Nouvelle-Zélande, où ce seul cépage constitue à peu près 2/3 du vignoble. C'est énorme. Donc c'est un grand pays, tout petit pays de production, mais un très grand pays pour le Sauvignon. Mais on trouve aussi en Europe, en Italie, Espagne, j'ai cité, la Bulgarie et l'Autriche, par exemple. Alors, pour être complet, Frédéric a souligné, il y a le Sauvignon gris, qui a une baie rose. C'est une variante, on peut le reconnaître. Il a des caractéristiques très légèrement différentes. Qu'est-ce qui permet de distinguer? C'est un cépage assez distinctif, donc plutôt aromatique. On a fait des adéquations entre des arômes d'autres substances pour essayer de décrire les arômes de Sauvignon, qui sont bien sûr variables selon la vinification, le climat, etc. On a nommé le bourgeon de cassis, la feuille de buis, le citron, la pamplemousse, voire les fruits de la passion dans des pays un peu plus chauds. Tout ça est bien sûr assujetti à des différences climatiques et des vinifications, mais en tout cas, c'est un cépage qui est relativement facile à identifier, non seulement par les arômes, mais par la structure qui est plutôt basée sur l'acide, qui peut être plus ou moins concentré selon la vinification et selon le rendement, mais c'est un cépage qui est plutôt aromatique et plutôt facile à identifier. Je pense que c'est une des raisons de son succès. C'est-à-dire que le consommateur peut l'identifier.
Et quel type de gastronomie, David, en général? Alors c'est tout compliqué de généraliser, mais un bon Sauvignon français, par exemple,
alors,
ou italien?
Je crois qu'il vaut mieux, le segmenter. Quand on goûte ces vins dans des concours, d'abord, soit c'est un Sauvignon pur, soit c'est un Sauvignon en assemblage. Mmh. En France, dans le Bordelais, on l'assemble très souvent avec des Sémillons, par exemple, ou avec d'autres.
Il y a de plus en plus de replantations de Sauvignon rose, une petite tendance.
Ça aussi. Et puis aussi dans d'autres pays, on le trouve assemblé avec le Chardonnay. Et dans la région où j'étais, à Frioul, on le trouve avec le Friulano, le Ribolla Gialla, avec d'autres cépages locaux. Donc c'est difficile de le généraliser. Si c'est boisé ou pas boisé, c'est une autre catégorie de distinction de deux catégories. Un Sauvignon boisé, comme par exemple les vins de Graves et de Pessac-Lignon, ça c'est des vins qui ont plus de structure, plus de tenue, donc qui tiennent sur des poissons rôtis, sur voire des viandes blanches, des choses comme ça. Un Sauvignon simple, vif, sur le fruit.
Allez, c'est fruits de mer.
Des fruits de mer, des crustacés.
Ou l'apéro.
Ou c'est très bien. Oui, des fromages vifs. Ouais. Fromages vifs, n'oublions pas les liens de parenté, de voisinage entre le Sancerre et le Crottin de Chavignol.
Oui, c'est vrai.
Voilà un exemple, ça marche très bien. Vous avez besoin d'autres informations?
Non, David, au niveau des prix du Sauvignon dans le monde, suivant la qualité, ça va être combien, 2 euros à 200 euros?
Vaste programme. Oui, Sauvignon de base qu'on peut trouver en supermarché sous une étiquette vin de Pays d'Oc, par exemple, où il y a des très bons, ça peut partir de 2-3 euros, mais on peut trouver des grands Sauvignons vinifiés en barrique qui vont coûter 50 voire 100 euros.
10 euros en bordelais.
Voire 100 euros. Vous achetez des pouilles fumées de Daguenau, spectre très large en fonction de la qualité du vin ou la qualité supposée du vin, la renommée du producteur, tout le reste.
Merci beaucoup David Cobold. InVino Sud Radio retrouve maintenant Fabien Humbert, journaliste à la Revue du Vin de France, pour nous parler du marché des vins étrangers. Alors, est-ce qu'on en vend beaucoup en France, Fabien, ou pas des vins étrangers?
Justement, on en vend très peu, Alain. Alors, vous pensiez que savoir reconnaître les plus de 300 appellations d'origine contrôlée française était l'œuvre d'une vie, qu'une fois avoir dégusté l'ensemble des crus de l'Hexagone, vous pourriez mourir vieux et heureux. Que nenni.
On n'est pas pressé. Hein.
Non, le plus tard possible. Hein. Mais car hors de nos frontières, des centaines d'appellations de régions viticoles et de crus vous attendent. Ainsi, selon One Explorer, on produit du vin dans 90 pays sur les 200 reconnus par l'ONU. Alors, on le sait peu en France, mais il y a du vin à l'étranger. Si, si. J'exagère à dessein, je force le trait, mais force est de constater que nos compatriotes sont plutôt chauvins en matière de pinard. Savez-vous combien représente le marché du vin en France? Donc, je vais répondre à la question que vous m'avez posée tout à l'heure. 8% seulement.
8% ouais. Des vins consommés ou achetés, ou les deux?
Alors, justement, si on enlève de l'équation les bouteilles de vins étrangers vendus en France, mais dont les producteurs sont détenus par des entreprises françaises, on passe à 3%.
D'accord.
Ça a été 3% de vins étrangers pendant des années. Hein. Ça a décollé il y a 2 ans ou 3 ans.
Eh oui.
3% pendant 30 ans.
Et ouais. Encore le décollage est quand même un peu façon
beaucoup plus parce que dans l'avion récent avec lequel on a eu des soucis, surtout les marques marocaines et espagnoles.
C'est ça. Alors justement par exemple les best-sellers étrangers en France que sont Sidi Brahim, un vin tunisien, Boulaouane, marocain, qui sont à plus de 1 million de colles chacun, sont en fait des marques du groupe Castel, un groupe français. Mateus venant d'Espagne est une marque du groupe Grand Chais de France. Alors pourquoi tant de désamour me demanderez-vous? D'abord parce que on a de très bons crus de par chez nous. Dans ces conditions, pourquoi aller tenter le diable en débouchant un vin à consonance exotique?
Enfin, le diable, un diable différent, on va dire.
Oui, voilà. Ensuite, parce que les vins étrangers ont pendant longtemps traîné derrière eux une sale réputation. En fait, ils étaient surtout achetés dans les restaurants italiens, marocains, portugais ou espagnols. Les Français avaient pour seule image des crus venus d'ailleurs, ces vins souvent de qualité médiocre qu'ils commandaient au restaurant pour accompagner leur lasagne, leur morue, leur couscous ou leur moussaka. Mais ça, c'était avant.
Oui.
Comme vous l'avez dit, ça frémit. Hein, car si les vins étrangers peinent à briser le plafond de verre, on sent un frémissement, un intérêt nouveau pour ces bouteilles exogènes. D'abord parce que dans de nombreux pays, la viticulture a fait de gros progrès. Les terroirs ont été identifiés, le matériel modernisé, tandis que le bio, la biodynamie et même le vin nature prenaient de l'ampleur hors de nos frontières. Si bien que désormais, on trouve du bon vin partout, même en Angleterre.
Bah c'est bien ça. Alors on tient un petit débat là.
Surtout au début pour l'Angleterre.
Et vous êtes optimiste, ça va se développer un peu ce constat en tout cas, cette tendance plutôt?
Alors optimiste, modérément, hein, parce que ça augmente de 0,1-2% par an. Et les consommateurs ne s'y trompent pas, notamment les jeunes générations, beaucoup plus ouvertes aux vins étrangers. Les jeunes pousses n'abordent pas le vin de la même façon que leurs aînés. Ils voyagent, ont moins d'a priori, sont moins fidèles à une appellation ou à un domaine. Et ce qui vaut pour les millennials ou la génération Y vaut aussi pour monsieur et madame tout le monde. Ces derniers partent découvrir les splendeurs de Rome ou les paysages époustouflants de la Patagonie. Et à leur retour en France, ils n'ont de cesse de retrouver ce petit vin dégusté à la terrasse d'une trattoria ou qui avait si bien accompagné leur assado. Alors, on trouve surtout quand même les vins étrangers dans la restauration actuellement. Les sommeliers, eux aussi, voyagent, ont des expériences à l'étranger, notamment dans les pays non producteurs, où le vin français, bien que très présent, n'est qu'une provenance parmi tant d'autres. Et une fois rentré au pays, ces sommeliers et restaurateurs tentent de faire partager cette ouverture d'esprit à leur clientèle française. Si bien qu'on trouve désormais des vins venus d'ailleurs à la carte de la plupart des restaurants proposant de la gastronomie française. Mieux, ils n'y sont plus présentés à part, mais côtoient les vins français au sein des catégories habituelles que sont les rouges, les blancs, les rosés, les bulles, sans autre distinction que leur couleur. Alors, cependant, le français reste un peu conservateur en matière de vin. Aussi ne prendra-t-il pas d'entrée une bouteille, elle testera l'eau du bain en prenant un petit verre pour commencer. Et la progression des vins étrangers...
C'est pas le rosé de piscine, c'est le rosé de bain.
Un petit verre de l'eau du bain, j'ajoute
dessus. Quand vous dites qu'il y a des vins au verre...
Voilà, donc s'il y a du vin au verre, en général, on va essayer un vin étranger.
On prend le risque, oui.
Alors, s'il n'est pas à plus de 15 euros. La plupart des cavistes, en général, me disent au-delà de 12-15 euros, on ne tente pas la découverte.
15 euros pour un verre de vin
à la bouteille.
En général, c'est entre 5 et 7 euros le verre au vin.
Et pour terminer, la Fabienne, vous êtes optimiste ou pas alors pour développement ou au contraire, on va rester franco-français?
Faut-il craindre la raz-de-marée des vins estampillés Gallo, Yellowtail ou Fractionnette en France? Tout de même pas, car la France est protégée par l'excellence de ses crus, mais aussi par la loi Evin. Et oui, paradoxalement, c'est en interdisant la plupart des ruses marketing, des partenariats ou encore le ciblage des populations comme les jeunes ou les femmes, cette loi que les vignerons français vouent aux gémonies les protège d'une déferlante de vins étrangers.
Merci beaucoup Fabien Imbert, merci également à vous Hélène Piau, Frédéric Hermine et David Cobold. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour une nouvelle émission. Ça sera demain à 12h30 précise. Nous serons en public et délocalisés au restaurant Bar à Vin Nicolas, toujours à Paris, en 31 Place de la Madeleine. On parlera de plein de choses, notamment une nouvelle fois des vins bio, des cépages oubliés en Isère et des vins du Brulois, des caves coopératives aussi. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.
Sud Radio, Invino.